Qu'est-ce qu'elle a dit, Fusca? Vous êtes un signe pour le monde. Donc, ça y est, on est lancé, hein? Alors, le rôle de la femme dans le monde. Je ne savais pas dans quelle direction aller. Je me suis dit, le rôle de la femme dans le monde. Mais qu'est-ce que je vais leur raconter? J'étais dans le train et puis j'ai eu une inspiration. Donc j'ai écrit jusqu'à Genève. J'ai commencé à écrire et puis c'est venu comme ça. Le monde ne sait pas, il ne veut pas l'admettre. Il vient refuse de le voir. Mais tout appartient à Dieu. Et la Bible dit ceci. En effet, tout vient de lui. Tout subsiste par lui et pour lui. À lui sera la gloire à jamais. Romains 11, verset 36. Ce seul verset nous remet à notre place. Parce que nous avons une place bien précise dans le monde. On a notre place à l'église. Et dans le monde, on a cette place bien précise. Ne minimisons jamais notre place dans l'Église, et encore moins dans le monde. Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, verset 13.
C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel de vie parle avec toi, le sel de renton. Il n'y a plus donc qu'à être jeté dehors et tué au pied par les hommes.
Et il nous explique l'importance de ce sel. Il dit encore, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14 et 16. À 16.
C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour le feu, la nourriture et le bateau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos deux bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Il nous explique aussi l'importance que la lumière a dans ce monde. Chacune de nous avons une valeur précieuse et unique aux yeux de Dieu. Quels que soient les problèmes que nous pouvons avoir, tout va commencer à l'intérieur et doit battre les murs à l'intérieur. Nous avons de la valeur pour Dieu et le rôle qu'il nous destine passe par notre cœur. 1 Samuel 16, verset 7. J'aime beaucoup ce verset.
Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille. Quand je lui rends de Dieu, ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qu'il croit. Les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.
L'Éternel regarde au cœur. Dieu s'attache à notre richesse intérieure et il nous appelle à refléter les qualités qu'il veut en Jésus. J'ai relevé un petit texte dans un livre que je lisais. Notre époque, voilà ce qu'elle propose. Tous les besoins satisfaits sans me soucier du bien ou du mal. Toujours plus d'argent et de richesse sans partager. Être le meilleur, le gagnant en écrasant les autres. Réussir tout à n'importe quel prix. Aller toujours plus vite. Voilà ce que Dieu me propose. De me contenter de ce que j'ai, d'être généreux. De prendre du temps pour lui parler et l'écouter. D'être humble, simple, accessible. De reconnaître que j'ai besoin que Dieu m'aide à progresser. De m'intéresser aux autres, de les aimer, de leur témoigner de la bonté, d'avoir soif de justice, de vérité, de pureté, d'aimer mes ennemis et de prier pour eux. Aller à l'église tout en me contentant de valeurs qui prévalent dans notre monde, c'est être un chrétien de façade. Compter sur le secours de Dieu pour vivre ce qu'il propose, c'est aller au-delà de l'apparence et de l'apparence de la piété et honorer Dieu. La Bible dit, 1 Pierre 2, verset 11 à 12, Ou encore 1 Pierre 2, versets 13 à 14 et le verset 17. Ou encore 1 Pierre 3, versets 1 à 2. Dieu nous demande de tout faire avec notre cœur, que ce soit dans l'Église ou dans le monde. Un cœur capable de se soumettre. La soumission dont parle la Bible n'est pas s'abaisser. On a vu tout à l'heure que l'obéissance n'est pas être inférieur. N'est pas s'abaisser, ni s'écraser, ni être esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Jésus s'est soumis, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il était esclave? Il n'était jamais esclave de personne. Cette soumission-là, celle que Jésus nous enseigne, est tout simplement l'humilité. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, comme le monde pourrait le penser. Non, l'humilité, c'est une force. S'humilier ne veut pas dire non plus perdre son autorité. Jésus s'est humilié, mais n'a jamais perdu son autorité. Il a au contraire affirmé sa force. Il a toujours montré par ses paroles et ses actes qu'il était le maître. Ne minimisons pas notre autorité, notre place dans ce monde. Comme Jésus, notre rôle est de faire la volonté de Dieu. Ce sera de montrer notre force tout en nous humiliant. C'est notre cœur qui parlera à notre place. C'est notre comportement intérieur qui se verra à l'extérieur. Une bonne disposition de cœur pour Dieu. Le monde ne nous épargne rien. Nous n'avons rien à retrouver. L'approbation que nous recherchons, c'est uniquement celle de Dieu. Et Dieu regarde une seule chose en nous, et ce n'est ni le prestige, ni l'argent, ni l'ordre social, ni notre belle apparence. Tout cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Ça, c'est l'homme de Dieu qui le recherche. Voilà ce qui a de la valeur pour Dieu. 1 Pierre 3, versets 3 et 4.
Recherchez, non par rapport de l'extérieur des cheveux traités, des ornements d'or, des vêtements somptueux, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est incorruptible à l'esprit et aux yeux, c'est un si grand fruit devant Dieu.
Toutes les fois que nous devons nous soumettre dans ce monde, c'est à Dieu lui-même que nous nous soumettons. La Bible insiste sur ces points. Quand nous faisons du mal à quelqu'un, c'est à Dieu. Quand nous faisons du bien, c'est aussi à Dieu. Quand nous travaillons, c'est pour Dieu. Quand nous péchons, c'est contre Dieu. Quand nous nous soumettons, c'est donc c'est notre cœur qui doit se soumettre. Et c'est donc à Dieu que nous nous soumettons. À qui appartient ce monde avec tout ce qu'il contient? On le chante. Tout ce monde appartient à notre bien-aimé. Quand nous avons une créature de Dieu devant nous, quelles que soient les circonstances, souvenons-nous de ceci. Elle appartient à Dieu. Sa vie et la nôtre appartiennent et dépendent de Dieu. Ça paraît fou. Et c'est pourtant ce que Dieu nous demande. D'être capable d'assumer notre foi au point de passer pour des fous. Souvenons-nous ce que nous dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 1, verset 23. Le monde ne cesse de nous harceler avec ses idées, avec ses convictions, sa tolérance. Toutes ses pensées sont révolutionnaires, mais ne peuvent pas s'accorder avec notre vie chrétienne. Et pourquoi
On ne les enseignerait pas avec nous, confiés à nous. L'idée, ce n'est pas de les harceler en les tapant sur la tête avec une Bible, mais bien que des fois, on nous bien aimé ça. C'est tenté, mais ce n'est pas l'idée. Le harcèlement que je pense, c'est d'affirmer notre intérieur afin qu'il se manifeste à l'extérieur. Prenons-nous des risques. Nous avons peur de prendre des risques. Le risque de se voir rejeté, le risque que l'on se moque de nous. Nos missionnaires, par exemple, prennent des risques à vivre ou à faire des voyages dans des pays ou dans des contrées qui sont hostiles aux chrétiens. Mais finalement, j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte finalement que ce que le monde appelle risque, nous, on doit l'appeler foi. Donc, affirmons notre foi sans peur et sans crainte. Nous ne devons pas être étonnés quand le monde nous traite de fous. C'est le contraire qui doit nous étonner. Notre comportement doit paraître fou, car notre vision est tout autre que celle du monde. Selon leur vision, nous sommes fous, mais aux yeux de Dieu, nous sommes ce que nous devons être, ses enfants. Manifester notre foi à travers notre comportement. Jésus nous a promis que nous ne serons pas épargnés. Si nous le suivons et nous le servons, voici ce qui nous attend. Jean 15, versets 18 à 19.
À cause de cela, le monde a la
haine. Si nous allons dans le même sens que le monde, je reviens le sens encore, si nous allons dans le même sens que le monde avec ses idées, cela veut dire que nous ne sommes pas dans le bon sens. C'est-à-dire le même que celui de Jésus. Celui, le même sens que le dessein de Dieu. N'ayons pas peur d'être à contresens. Par exemple, dans le train, quand vous êtes dans le train, ou dans le métro, ou dans le bus, tout le monde lit le 20 minutes. Bien, nous lisons notre livre, ou notre livre, bien plus intéressant, bien plus, avec de bonnes nouvelles. Et si, peut-être, par hasard, quelqu'un nous poserait la question, pourquoi on lit la Bible au lieu du 20 minutes, tout le monde lit le 20 minutes. Moi, je dirais, mais là, les meilleures nouvelles, il y a de bonnes nouvelles là. Dans les 20 minutes, on voit que c'est catastrophique. Moi, je peux faire ça. Au lieu des romans d'amour, c'est plus. Il y a plus d'espoir. C'est dans les meilleurs. Jésus aussi était à contresens pour les pharisiens. Mais il était dans le bon sens. Avec tout leur savoir, ils pensaient confondre Jésus avec sa propre parole. Mais dans tout cela, ils ont oublié une chose, l'humilité. Celle qui les aurait permis de voir qu'ils allaient dans le mauvais sens. Nous ne devons pas avoir peur du monde. Nous sommes précieuses. Et nous avons ces choses précieuses que le monde n'a pas. C'est la foi, l'espérance et l'amour. C'est allé très vite. Et j'ai des petites choses pour vous. J'ai deux textes sur que je vais distribuer à chacune de vous. Et je crois qu'il y en a qui ont certainement des aspects. Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais tu peux rendre confiance à tes frères. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais tu peux semer l'union. Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir un découragé. Dieu seul a le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres le goût de vie. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu peux faire le possible. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il préfère compter sur toi. Et j'en ai un autre que tous les sémistes ont eu, ça c'est sûr. Ô Dieu, envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui oublient, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité, l'inconnu toujours béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de la paix, purs de compréhension, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, à la fois libre et obéissant, spontané et tenace, doux et fort. Ô Dieu, envoie-nous des fous. Je vais distribuer.
Thank you.